Désir d'architecte sur Bâti Radio.
Bâti Radio, la voix du bâtiment.
Bonjour, 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 bienvenue dans cette émission Désir d'architecte. Je suis ravie de vous retrouver avec Guillaume Loiseau, toujours Guillaume, avec ces jolis moments qu'on partage ensemble dans ces rencontres que nous faisons grâce à Bâti Radio et à Désir d'architecte. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Alors aujourd'hui, on a Désir d'architecte, mais on se pose la question du désir de la ville. Et comment cette ville que nous habitons tous, puisque majoritairement aujourd'hui nous habitons dans une ville, comment se l'accaparer, comment l'aimer, comment y habiter, comment l'enchanter et comment vivre tout simplement à l'intérieur de cette ville. Anouk Legendre est notre invitée aujourd'hui. Anouk Legendre, bonjour, vous êtes architecte spécialisée dans le biomimétisme. On va comprendre avec vous ce que cela veut dire. Vous travaillez avec Nicolas de Mézières qui votre co-architecte, vous partagez, associé. Avant de comprendre ce qu'est le biomimétisme, je me suis posé la question de l'étymologie de ville. C'est vrai, on se dit, mais on habite en ville, mais qu'est-ce que c'était à l'origine la ville ? Eh bien, l'origine du mot ville, en latin comme en grec, se confond avec la notion de cité. La civilisation gréco-romaine, qui forme une grande partie de notre héritage, crée l'appellation de ville pour désigner les biens publics par opposition aux biens privés qu'étaient les exploitations agricoles. Aujourd'hui, on est dans un contexte où le 20e siècle fut celui de l'exode rural, le 21e siècle sera celui de l'exode urbain, point d'interrogation. Près de 500 villes comptent entre 1 et 5 millions d'habitants dans le monde. 36 villes comptent plus de 10 millions d'habitants. À l'heure de la pollution et du télétravail, comment aimer vivre en ville et réinvestir la ville? Est-ce que le biomimétisme est une solution à cette problématique de la ville? Anouk Legendre, vous êtes avec Nicolas de Mézières. Je pose la question, celle qui a inventé une tour à Strasbourg, qui était la première à ce que cette tour crée plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Est-ce que c'est une solution pour vivre en ville, de créer des endroits qui créent plus d'énergie qu'ils n'en consomment?
C'est une partie d'une solution pour économiser l'énergie, pour sensibiliser les habitants. Effectivement, à Strasbourg, les habitants sont remboursés. Ils ne payent pas d'électricité, mais en plus, on leur donne de l'argent, en fait, en monnaie locale, ce qui va permettre de réinvestir localement. Et c'est aussi une tour à énergie positive socialement. On s'est dit, l'énergie positive, c'est aussi l'énergie des humains, entre eux. Et donc, ils ont un grand local en haut du bâtiment qui leur sert à faire des fêtes ensemble, à pique-niquer tous les soirs ensemble, à avoir des projets ensemble. Et comme ça, peut-être tous ensemble, ils vont avoir une autre énergie et faire des nouvelles choses.
Depuis combien de temps existe cette tour ?
Ça fait un an et demi que ça a été livré.
Quels sont les retours des consommateurs, des usagers, des habitants ?
Eh ben, les gens sont très contents de cet espace de vie commun, notamment. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout avant. Et tous les soirs, ils retrouvent leurs voisins là. Enfin, en été surtout, parce que c'est un espace extérieur. Ils sont très contents de ça. Et je pense qu'ils doivent être fiers de...
De tester,
ouais, c'est
nouvelle façon de
vivre.
C'est
des pionniers quelque part, parce qu'ils sont mobilisés aussi activement pour arriver à pas consommer d'énergie. Ils sont assistés par un coach énergétique qui est un petit logiciel. Mais c'est leur action à eux qui fait aussi qu'ils vont pas consommer. Il y a bien sûr des capteurs solaires qui amènent l'énergie, mais c'est la façon dont ils gèrent le bâtiment et dont ils s'investissent dedans qui va faire qu'ils vont pas consommer. Donc
Guillaume Loiseau, ça vous rappelle pas une émission avec Monique Eleb du Vivre Ensemble ?
Ça me rappelle une émission, mais en fait tellement de choses. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce type de projet, c'est que en fait on perçoit les habitants pour le coup de cet immeuble de logement autrement que des unités de consommation de kilowattheures ou de consommation de plein d'autres choses, et finalement comme des unités de production, alors d'énergie, comme vous l'avez rappelé, beaucoup grâce à la technique, mais aussi par l'éducation, en fait, et un peu l'émulation de tous ces habitants du quartier. Et puis comme un système de production, j'imagine qu'on y vit bien, je ne m'y suis pas rendu, je ne connais personne qui habite là-bas, mais un système de production aussi d'unités de bien-être social et du vivre ensemble, enfin tous ces mots... ils sont à la mode en fait parce qu'on y aspire tous. C'est pour ça que ça fait qu'on se les approprie assez facilement. Donc ça inverse complètement le rapport de toutes les formes d'unités de consommation vers quelque chose où on produit, où on a un impact sur soi-même, sur sa famille, sur le budget du mois. Et puis sur ses voisins et le collectif. Donc c'est hyper, hyper positif.
Ce que je trouve, ce que ça résonne, c'est ce côté acteur de la situation et pas un simple spectateur. Je ne rentre pas chez moi, je rentre dans un lieu où je vais, grâce à mon comportement, à ma façon de vivre, à ma façon d'avoir envie d'habiter cette ville, devenir un acteur de la vie sociale et écologique. Et ça, c'est, on va dire, aimable, pour le coup. Alors, on envoie régulièrement Vianney, justement, au contact des usagers dans la rue, pour essayer de comprendre et de mettre des mots sur les problématiques, parce que parfois, on intellectualise des choses, et Vianney, je lui dis, allez dans la rue, essayez de comprendre ce que les gens ont dans la tête. Et donc, bien sûr, sur cette thématique désir de ville, on n'est pas allé sur le biomimétisme, parce qu'on s'est dit que ça allait être peut-être un peu complexe pour eux. On s'est demandé si les gens, au fond, ils avaient envie de vivre en ville, et comment ils avaient envie de vivre en ville. Alors, Vianney, vous avez posé quelles questions ?
Alors, pour cette émission, je suis allé à la rencontre des urbains de tout âge pour leur demander les avantages qu'ils avaient à vivre en ville.
On les écoute.
Pourquoi vivre en ville plutôt qu'à la campagne ? Moi, j'aime bien les immeubles. J'aime bien lever la tête et regarder les balcons, les terrasses. Voilà.
Parce que j'habite depuis toujours ici. Ça fait 70 ans, donc j'ai pas envie d'aller habiter ailleurs. Et la campagne, j'aime bien y aller, mais pas longtemps. J'aime la ville.
Parce que le job que mon mari et moi-même exerçons peut se faire a priori qu'en ville. Et qu'en plus, on aime ça.
Je trouve que la campagne, c'est un peu enfermé, c'est isolé, c'est... voilà.
Eh bien, pour la concentration de population et donc de lieux de rencontre, d'échanges à tout point de vue...
Moi, je préfère vivre avec un grand jardin quand même qu'avec dans un immeuble. J'ai besoin d'espace, sortir rapidement de chez moi pour être dans un espace vert. Alors, par contre, c'est vrai que la ville a directement beaucoup de fonctionnalités, hein, tous les services très proches, les transports, les commerces. Alors, ville, en espérant que la ville est bien construite pour répartir tous ces services, notamment tous les commerces de proximité sur l'ensemble du territoire.
Plaisant en ville, c'est la diversité.
Pour les commodités, pour les services publics, pour les boutiques, pour les médecins, etc., cliniques, tout est plus à portée de main. Je parle en tant que personne âgée. J'imagine qu'à la campagne, c'est plus difficile. Déjà, il faut conduire, il faut avoir une voiture, il faut être en état de la conduire et d'aller sûrement à des dizaines de kilomètres avant de trouver quelque chose.
Mais j'ai obligé de rester en ville pour travailler. Parce qu'il y a du travail ici.
Moi, personnellement, je préfère vivre en ville parce qu'il y a tout à proximité, que je sors beaucoup. Donc voilà, j'aime bien quand il y a du monde en bas de chez moi. J'aime bien sortir, faire des choses. Je me sens un peu perdue, éloignée de tout à la campagne.
Alors, on rêve de vivre à la campagne et finalement, on vit en ville. C'est un peu le résumé, n'est-ce pas, Vianney ?
C'est ça. Mais les gens qui veulent vivre en ville, c'est surtout parce qu'il y a la proximité des commerces, on l'a entendu, les emplois. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ceux qui parlaient de diversité, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'être humain est un être de rencontre. C'est dans sa nature.
C'est magnifique, Anouk Legendre.
Oui.
L'être humain a besoin de cette diversité pour créer la rencontre.
Ben, en fait, la ville, elle amène une énergie de tous les gens qui font la ville, en fait. C'est le lieu de tous les possibles, finalement. Et c'est pour ça aussi qu'on vient là pour travailler. Après, c'est vrai que quand même beaucoup de gens aspirent à plus de nature, à des morceaux de campagne en ville. Et pour faire rendre plus vivable cette ville, ça serait bien d'avoir ces morceaux de campagne en ville. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce mouvement des associations pour essayer d'avoir des jardins urbains. Cette reconquête des toits qui est quand même une formidable opportunité pour les urbains. Reconquérir les toits, retrouver le ciel, reconquérir le droit de faire quelque chose dans l'espace semi-public, en dehors de chez soi. Ça, c'est très important, parce que jusqu'à présent, c'est depuis un siècle, les habitants sont cantonnés à leur rôle d'habitants de leur logis, on va dire, et à leur rôle de consommateurs pour faire tourner les usines et pour faire tourner l'économie. Et finalement, on ne leur donne pas le droit de faire des choses sur l'espace public en dehors. Et finalement, reconquérir des espaces à l'extérieur ou sur les toits, c'est aussi une façon de reprendre la main sur le paysage.
Comme à l'époque où les cheminots avaient leur petit jardin partagé. Au fond, ils avaient ces espaces verts qu'on leur donnait pour que le week-end, ils puissent cultiver des potagers. Alors, c'est là où, où vous intervenez en tant qu'architecte avec Nicolas de Mézières, Anouk Legendre. Vous faites vous faites le pari de l'urbanisme par le biomimétisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que c'est le biomimétisme ? On comprend, bien sûr, c'est la mimétique de quelque chose, c'est mimer quelque chose, mais expliquez-nous précisément pour qu'on comprenne ce que ça veut dire dans l'urbanisme.
Alors, le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant, de la nature, pour trouver des nouvelles formes de vie en ville, d'urbanisme, d'architecture, etc. Donc ça peut se jouer à différents niveaux. Mm-hmm. Ça peut être le métabolisme de la ville qui prend modèle sur le vivant, sur les cycles du vivant, par exemple. Dans la nature, il y a des cycles du carbone. Qui vont faire que, en fait, il va y avoir des matières carbonées qui vont être dégradées et après qui vont servir de nutriments pour faire des plantes qu'on va manger, etc., etc. Et ça, dans la ville, on peut reproduire ça.
Comment, par exemple?
Je sais pas, en repensant l'organisation des réseaux. Actuellement, par exemple, les eaux sales des villes vont dans des grandes centrales qui vont nettoyer tout ça et c'est pas tellement récupéré après. Mais finalement, ça pourrait être une ressource. Actuellement, il y a des gens qui réfléchissent à ça, même à la récupération des différentes eaux pour faire des engrais, par exemple. Voilà. Après, on peut aussi prendre exemple sur la nature pour d'autres façons de faire les bâtiments. Par exemple, faire des parois du bâtiment qui soient auto-régénérables. Alors, ça, c'est un Graal. L'architecture auto-régénérable. Il y a bientôt un centre de recherche qui va se construire dans le sud de la France sur ce thème. On peut prendre exemple pour faire différents objets de la vie quotidienne. Enfin, il y a plein d'exemples dans la nature qui peuvent servir de modèle. Il y a aussi des symbioses qui peuvent servir de modèle et elles sont intéressantes parce que jusqu'à présent, on a une organisation de la ville qui est pensée en silo, séparatif. C'est-à-dire que chaque domaine est séparé, l'énergie, l'eau, les
industries. L'isolément, voilà. Vous voulez dire, chaque
chose. Et si on pense symbiose, parce que dans la nature, il y a des symbioses entre les êtres vivants, entre les champignons et des plantes, entre
les arbres,
des plantes et des animaux, entre, voilà, etc., entre les arbres entre eux, etc., eh bien, on peut se dire que finalement, un domaine peut produire un déchet qui va servir de ressource à un autre. Et comme ça, on va avoir besoin de moins de ressources parce qu'on va tout recycler.
Comme un cordon ombilical entre les choses.
Ou comme un cycle de vie, enfin comme un écosystème finalement. Mmh. Si on pense la ville comme un écosystème, comme si c'était un écosystème naturel, on peut le
vivant,
penser autrement.
Donc, un écosystème vivant. Les micro-algues ont les mêmes besoins thermiques que les humains, par exemple. C'est ce que vous dites avec Nicolas de Mézières. Et c'est vrai que tout à coup, quand on dit ça, on dit, on pourrait faire des choses avec des micro-algues sur des façades d'immeubles. Mmh. Et donc, si elles ont les mêmes besoins que les humains en termes photosynthèse, en termes de carbone, etc., donc elles se détruiraient pour se régénérer en permanence. C'est ça le biomimétisme, en fait. C'est cette idée qu'on peut l'appliquer à quelque chose un immeuble qui deviendrait par essence vivant, du coup.
Ben oui, enfin ça prend modèle sur effectivement, notamment un petit animal des mers du Sud qui s'appelle Edisia chlorotica.
Vous pouvez répéter son nom ?
Edisia chlorotica,
c'est joli.
Oui, elle est très mignonne d'ailleurs. C'est une limace qui vit dans la mer et qui fait de la photosynthèse. En fait, elle mange une algue particulière et elle prend les chloroplastes de l'algue, elle les range sur son dos. Du coup, elle a une forme de feuille et elle fait la photosynthèse comme une feuille d'arbre et elle a plus besoin de manger. Et donc, on s'est dit, si un animal pouvait faire de la photosynthèse, que d'habitude, c'est les plantes qui font ça, eh bien, peut-être les bâtiments pourraient faire de la photosynthèse aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé les biofaçades. Donc, c'est des façades remplies d'eau, qui lui-même est remplie de plancton, et qui permet de faire de la photosynthèse et de produire de l'alimentation, des médicaments, différentes choses.
Guillaume Loiseau, vous qui dirigez un événement majeur dans le monde qui s'appelle Batimat, est-ce que vous ressentez cette demande ? Est-ce que vous ressentez ces entreprises justement qui sont aujourd'hui dans cette réflexion ? C'est magnifique ce qu'on entend parce que J'ai envie de dire, c'est pas une utopie, c'est une réalité, puisque ça existe. Il y a des choses, il y a des chercheurs qui sont maintenant aujourd'hui sur des approches vraiment réalistes.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une réalité concrète, dans le sens où sur Batimat, qui finalement n'est pas autre chose qu'un grand poste d'observation à 360 degrés de tout ce qui se passe en matière d'innovation dans le bâtiment, et avec un angle de vue, enfin panorama mondial. C'est une réalité concrète. Hein. On a vu en 2017, donc ça commence déjà à dater, parce que le prochain salon sera en novembre 2019, des solutions dites bioclimatiques, donc qui en fait s'adaptent en fonction de l'évolution de l'environnement extérieur, les conditions d'ensoleillement, les conditions de météorologiques en général. Dans le domaine de la façade, effectivement, on ne trouve pas encore, et je le regrette beaucoup, de solutions industrielles telles que vous les décrivez, qui intègrent des organismes vivants à l'intérieur. Mais il y a encore 4 ans, en fait, c'était quasiment de la science-fiction de capter et stocker l'énergie sur un bâtiment résidentiel, ou en tout cas complètement hors de portée économique, même si la technologie le permettait. Il y a 2 ans de cela, on a vu des façades complètes en fait d'immeubles où on peut et qui sont, excusez-moi, mais pas moches, des façades complètes en fait qui permettent de capter l'énergie du soleil. Donc ça décuple la surface de captation, parce qu'avant c'était sur les toits. Là, on multiplie par de grandes quantités les surfaces, et en plus on peut stocker et évidemment consommer l'énergie localement, la partager en ville, etc. Donc il y a beaucoup d'innovations technologiques dans le domaine. Et du coup, en fait, il y a une tendance qui va jusqu'à une modification des business models, en fait, de la gestion de l'énergie, de l'exploitation de l'énergie, du modèle économique des bâtiments. Parce qu'on peut pas insérer des nouvelles technologies qui coûtent très cher si on voit pas le modèle économique qui va autour, et la notion de partage, en fait, du business model. Donc il y a plein de choses qui se passent. Objectivement, ça bouge beaucoup, mais comme on est passionné, on va dire pas assez vite.
Est-ce que le problème, Anouk Legendre, le problème, j'aime pas ce mot, mais la réalité, c'est justement, il faut que tout ce principe arrive dans l'ère industrielle pour que. Comment réagit un promoteur qui vous demande de construire un immeuble quand vous lui parlez de tout ça? Est-ce que il en a la conscience, il en a l'éthique, il en a l'humanité, mais est-ce que la réalité économique aujourd'hui est possible?
Eh bien, c'est une question de passage de l'un à l'autre, en fait. Mmh. La première fois qu'on fait quelque chose, c'est forcément plus cher. Peut-être les 10 premières fois, c'est forcément plus cher. Il faut lancer des filières industrielles, il faut adapter les filières existantes, ou s'adapter aux filières existantes. C'est ce qu'on a fait à Strasbourg. On a complètement modifié toutes les dimensions du bâtiment pour rentrer dans les filières industrielles.
C'est-à-dire, parce que ça, c'est intéressant, justement.
Et du coup, parce que les filières industrielles du solaire prennent pas en compte les dimensions du bâtiment. Donc, on a changé toutes les dimensions, en fait, et de nos bâtiments. Mais sinon, quand on veut faire des innovations, le problème, c'est le passage aux premières innovations. Comment on passe d'un prototype qui n'est pas encore industriel, encore artisanal, vers une filière industrielle, que forcément, ça coûte cher, il y a de la recherche à faire à ce moment-là. Et forcément, les premiers exemples sont plus chers. Donc, c'est là que c'est difficile, et c'est là que, les appels d'offres d'innovation aident. Et ça peut être fait que sur des programmes assez gros pour payer cette partie d'innovation. Donc ça peut pas être fait sur des petits programmes. Tout le monde pourrait penser qu'on pourrait le faire en petit. Ben non.
En fait, non.
Il faut le faire en assez gros pour que ça soit rentable de lancer la filière. Donc forcément, les premières... Donc c'est un peu plus délicat à faire sur les premières fois, parce que ça doit être assez gros. Et en plus, on n'est pas sûr que ça marche, puisque c'est nouveau. Mais ça a été pareil pour le solaire. Il a fallu un certain temps pour y arriver.
Aujourd'hui, vous pensez qu'on est vraiment arrivé à quelque chose de cohérent dans l'industrie, dans l'envie?
Il y a eu beaucoup de progrès sur le solaire. On est arrivé tard à certaines solutions. Par exemple, le solaire mixte, on s'étonne qu'il ne soit pas arrivé avant, mais c'est intéressant, quoi. Il faut du temps. Il faut que toutes les industries s'y mettent, qu'il y ait plusieurs fabricants qui s'y mettent pour que chacun fasse leur petite évolution dans l'innovation. Mais si on ne fait pas des premiers exemples, on n'y arrive pas. Donc, il n'y a pas de miracle. Il faut faire des exemples, il faut faire des expériences, il faut avoir les retours des expériences. Et à chaque fois, on fait un grand pas. Donc, il faut en faire 1, 2, 3 ou 4 pour que ça marche vraiment bien. Mais sinon, on reste dans la continuité de l'existant et on n'évolue pas. Donc,
et pourtant, Et pourtant, aujourd'hui, sans parler de ce mouvement qu'on voit tous les samedis dans les rues de la ville, s'emparer des villes, c'est bien un principe même. C'est-à-dire, si on pouvait proposer aux gens de vivre mieux leur façon d'habiter, de moins consommer et donc d'avoir plus de pouvoir d'achat, c'est bien par la façon d'habiter. Enfin, le logement, ce qui m'interroge et ce pourquoi on a créé, je crois, Bâti Radio et tout ce principe de valeur de la marque Bâtimat par la réflexion, on se pose la question de savoir pourquoi, Guillaume, c'est pas un enjeu majeur, électoral, social, politique, sociologique, philosophique, économique. On remplit toutes les cases. Les gens, ils seraient plus heureux s'ils savaient qu'ils étaient les acteurs d'un bâtiment dans lequel ben, on leur redonne de l'argent et ils redistribuent de l'argent parce qu'ils ont aidé un bâtiment à créer de l'énergie et pas à la consommer.
Autant il y a un an, Sandrine, c'est une réflexion qu'on partageait régulièrement et en fait on aboutissait toujours à la même conclusion ensemble qui était qu'on n'était pas assez nombreux à penser la même chose.
c'est vrai.
Heureusement ou malheureusement, je pense que c'est en train de devenir un enjeu électoral, comme on dit, en tout cas qui concerne les pouvoirs publics et politiques, puisque finalement on vient de se rendre compte que ça concernait énormément les gens. Ça les concerne au point qu'ils l'expriment, de diverses manières, plus ou moins fortes ou raisonnables, et à grande échelle. Voilà. Donc en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avant, les gens sont hyper concernés par leur façon d'habiter, qu'on soit propriétaire ou locataire, à la limite, peu importe, c'est qu'une question de contexte. À la fin, c'est toujours des habitants qui sont heureux ou pas, en fait, chez eux. Et donc, il y a en fait deux conséquences très très fortes du pouvoir d'achat des gens. Enfin, le pouvoir d'achat, en fait, concerne la vie des gens au quotidien sur deux grands sujets. Le premier, c'est la mobilité, donc le rapport au travail, à la culture, au loisir et le rapport aux autres. On l'a entendu 8 fois sur 10 dans les témoignages précédents dans le micro-trottoir. Donc la mobilité et finalement la façon d'habiter. Voilà. Est-ce qu'on estime que la qualité de vie qui est liée à un savant équilibre entre comment je travaille, est-ce que les revenus dont je dispose subviennent ce à quoi j'aspire. Et c'est ça qui touche le plus les gens. Finalement, l'équilibre à la fin du mois, qui penche plutôt dans le vert ou pas, il se juge à travers ces éléments-là. Et chacun a un référentiel différent. Mais tout le monde se fait la même réflexion. Donc l'habitat, ça fait très longtemps que je le pense, et heureusement que Bâti Radio nous permet de le dire presque quotidiennement maintenant, de diverses manières, quelque chose qui touche énormément les gens. Et je pense même plus finalement, et pourtant c'est pas un enjeu petit, que les problématiques de développement soutenable ou d'environnement qui sont les grands enjeux du siècle. La façon d'habiter, le rapport à l'habitat touche bien plus les gens encore, même si les deux sujets se rejoignent.
Se rejoignent et se relient. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le reste du monde, Anouk Lejean ? Je sais que vous voyagez beaucoup, vous êtes tenu informé de tout ce qui se passe. Est-ce que la France reste cette vieille Europe dans laquelle on a du mal à innover et de trouver la réponse à ces questions, même si aujourd'hui on l'a compris, ce n'est plus une utopie grâce à des architectes et les engagements que vous prenez humanistes comme vous. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde ? Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce qu'il y a des réponses finalement plus pragmatiques ailleurs que chez nous ?
Ben, je pense qu'on a un mode de vie vraiment européen. Comment dire ? Je rentre de Chine, là. Et là, l'habitat, c'est vraiment complètement autre chose que ce qu'on vit. Enfin,
alors, l'exode urbain, eux, ils l'ont connu, mais massifié.
Mais ils le connaissent toujours. C'est presque un habitat industriel en silo. Je sais pas comment dire, mais
ça veut dire si quoi, c'est la vie,
ben ça veut dire que en fait, quand ici on construit une tour, là-bas ils en construisent 20, toutes collées les unes aux autres, toutes pareilles, et aux quatre coins de la ville il y a les mêmes, et c'est en masse et c'est à l'infini comme ça. Et quand on va dans une autre ville, c'est exactement la même chose, et c'est presque un urbanisme industriel. Par endroit, il y a pas beaucoup de plantes. Enfin, Je veux pas faire peur, mais peut-être c'est un des futurs du monde si on a besoin de loger plus de gens, qui est pas une place extensible non plus. Et ben, je m'interroge quand même quand je vois ça sur la qualité de vie qu'ont les gens, les durées de transport, etc. Enfin, faut pas croire qu'ailleurs c'est beaucoup mieux, quoi. Bon, en tout cas en Chine, je suis pas sûre que ça soit beaucoup mieux. Je pense que parfois les entreprises sont obligées d'avoir des logements à l'intérieur de leur entreprise pour que les gens puissent dormir le soir, parce qu'ils n'ont pas le temps d'entrer chez eux, parce que c'est loin, ils ont tous 2 heures de trajet. Je pense que la grande ville elle fait rêver, la grande métropole, mais peut-être trop grand, c'est pas forcément bien, quoi. Et en France, on est fasciné par ça, la ville qui grandit et qui est mieux que les autres. Alors il y a 6 villes phares qui vont dominer la France, on va dire, et puis le reste, c'est un peu laissé pour compte. C'est un peu vers ça qu'on va, mais je ne sais pas si c'est bien pour la qualité de vie. C'est bien pour l'énergie qu'il y a au centre de ces villes, c'est bien pour le développement urbain, immobilier, les affaires, tout ça. Par contre, il y a forcément des gens qui sont sur le carreau de ça. Il y a forcément ceux qui sont dans l'hypercentre et qui vont bien vivre, et ceux qui sont sur la périphérie qui vont se sentir frustrés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gilets jaunes se sentent un peu frustrés.
Moi, je pense que c'est en partie. Enfin, si je veux pas faire ma petite analyse personnelle, parce que je crois que chacun a son analyse de ce mouvement, mais j'ai le sentiment qu'il y a cette idée qu'il y avait les gens qui sont à l'extérieur et les gens qui sont à l'intérieur, et c'est les gens de l'extérieur qui viennent à l'intérieur de la ville. Et d'ailleurs, on voit bien que la première chose qu'ils cassent, c'est le mobilier urbain. C'est-à-dire cette façon d'arriver dans cette façon agressive de casser la ville, en fait. Quand ils peuvent pas casser autre chose, en tout cas, ils cassent la ville. Ils cassent les vitrines, ils cassent ce à quoi ils n'ont pas accès ou qui leur empêche de venir dans la ville. Si je vous donnais une baguette magique aujourd'hui, Anouk Legendre, j'aime bien le mot que vous employez là, c'est par le vivant, le biomimétisme que vous transformeriez cette ville. Parce que le vivant, c'est l'être humain aussi. Tout ce que vous dites est très cohérent. Ça ne me surprend pas, mais vous dites, en fait, plutôt que d'aller dans les Black Friday ou les moments d'hyperconcentration de soldes où on ne fait que consommer, la ville devrait produire, comme vos immeubles, en fait. L'être humain pourrait produire, en fait.
Alors, oui, il y a plusieurs choses.
La baguette magique.
La baguette magique, oui. Déjà, peut-être qu'il faut ramener plus d'urbanité dans les zones périurbaines. Plus d'urbanité avec des gens. Enfin, d'urbanité, c'est aussi la rencontre. C'est pas juste, comme vous dites, aller faire les soldes et acheter des choses.
L'urbanité, c'est l'humain dans l'urbanisme.
La force de la ville à l'origine, c'est la rencontre des humains entre eux. Les villes, c'était des marchés, les gens se rencontraient, c'est là que les affaires se faisaient, que les amis se faisaient, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un truc juste de consommation. Voilà, il faut rappeler ça, quoi. La ville, c'est un truc de rencontre.
Et c'est ce que disent tous les gens. Et pour ça, ils sont intelligents, les gens dans la rue. Vianney. La première question que vous posez, c'est vous avez le désir de ville? Oui, parce que c'est un lieu de rencontre. Mais c'est totalement faux, puisqu'on ne se rencontre plus.
Ben, on ne se rencontre plus. Ben, c'est pour ça qu'il y a ce succès. On ne se rencontre plus parce que les gens, ils ont tous l'impression de se rencontrer par leur réseau Internet et tout ça. Mais c'est une illusion. Donc c'est pour ça qu'il y a ce tel succès des coworking, des Fab Labs, des cafés, etc.
Des gilets jaunes.
Enfin, des gilets jaunes. Mais le rond-point devient un grand lieu de rassemblement.
Mais oui, il y a peut-être eu des rencontres. 36-15, je te rencontre au rond-point des gilets jaunes. Non, mais c'est pas faux, j'imagine.
Mais ouais, la ville, c'est quand même ça au départ. Et finalement, avec ce qui se passe dans le commerce qui fait qu'on va plus en ville, il y a une crise de la ville.
Et c'est ça de façon.
Il y a aussi une crise de la banlieue, parce que bon.
Et c'est ça de façon étymologique. Puisqu'on a démarré l'émission comme ça.
Ouais.
Sur l'étymologie.
Je pense qu'il faut que la ville, elle arrive à. La force urbaine et sociale de la ville, elle arrive à revenir dans le périurbain et même dans les campagnes. On ne peut pas laisser abandonner des parties de territoire qui sont en dehors de l'hypercentralité. On a trop pensé à l'hypercentralité. Je comprends que ça fascine, c'est ça qui marche, etc. Mais. Le reste doit être traité aussi, et actuellement, c'est pas traité, je pense. Et donc peut-être il faut que ça soit la population elle-même qui trouve des solutions, ou les élus locaux qui trouvent des solutions pour refaire de l'urbain, refaire du service dans le périurbain ou dans les campagnes. Voilà, de même qu'on a envie d'avoir un peu de campagne en ville parce qu'on aimerait avoir de la nature en ville, de même il faut ramener de la ville dans les campagnes aussi.
C'est peut-être
on ne peut pas laisser l'espace vide, je crois. Sinon, ça devient des non-lieux et des non-droits, je crois.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites. C'est plus facile de faire rentrer la campagne dans la ville que de faire rentrer la ville dans la campagne, j'imagine.
Ah oui. Actuellement, le mouvement, il est vers là. Les urbains, ils tendent à avoir des jardins. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des jardins en ville, sur les toits. Ça évite aux gens de prendre leur voiture le week-end et partir ailleurs. Ils ne consomment pas du pétrole pendant ce temps-là. Ils rencontrent leurs voisins, ils font des trucs avec leurs voisins. Tout ça, c'est social, c'est marrant.
On en revient à la rencontre.
Et on en revient à la rencontre. C'est un lieu de rencontre. Par contre, l'inverse, c'est plus dur, évidemment.
Mais ce qui est extraordinaire, Guillaume Loiseau, quand on écoute tout à l'heure Vianney, que je m'amuse à dire que je l'envoie sur le trottoir, mais c'est pas totalement faux, mais les gens Vianney dans la rue, ils vous disent des choses qui sont tellement simples à comprendre. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ?
Tout à fait, si, c'est la base, c'est la rencontre, c'est des personnes qui disent, moi je peux aller à la campagne, c'est intéressant la campagne pour la nature, mais au bout de 2-3 jours, j'en peux plus. Alors on a besoin intrinsèquement d'avoir du silence, d'avoir du calme, mais on a aussi besoin de rencontrer des gens, de parler, de débattre, d'échanger.
C'est le succès des Gilets jaunes, encore une fois, Guillaume Loiseau. C'est magnifique, non ? C'est un moment superbe, je trouve, parce que c'est un moment presque philosophique. C'est pas que de l'architecture, bien sûr, l'architecture n'est pas que du bâtiment, mais c'est de la philosophie.
Ce qui est magnifique, c'est que depuis 4-5 mois, on est beaucoup à réaliser beaucoup de choses. Et enfin atterrir sur des choses qu'on peut qualifier de basiques ou essentielles, mais en tout cas, il y a une prise de conscience générale, peut-être pas encore suffisante, mais en tout cas bien plus importante que ce qu'il y avait il y a encore un an de ça. Moi, je voudrais revenir sur ce dont vous parliez, sur les villes. En fait, il y a... Sur le trottoir, en fait, les gens, ça fait très longtemps qu'ils disent
des choses intelligentes.
Tout le temps la même chose. Il y a des études publiques et privées chaque année sur où veulent vivre les gens. Et depuis de nombreuses années, les gens disent toujours la même chose en masse. Les gens, en fait, veulent pas habiter dans les grandes villes. Donc tout ce mythe ou cette puissance un peu hypnotique de la grande ville qu'on appelle parfois Smart City, etc., spontanément, c'est pas ce à quoi aspirent les gens. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dessus pour la rendre plus agréable. Mais on parle malheureusement moins souvent du groupe ou de la grappe de petites villes, en fait, d'un modèle de petites villes connectées entre elles, d'un écosystème de petites villes de taille moyenne. Alors maintenant, on appelle ça territoire. Mais je pense que ça serait bien, enfin, on gagnerait à aller un cran plus loin, à travailler, non pas ce modèle énorme de l'hypercentre où tout le monde se concentre et ça concentre tous les savoirs, toutes les richesses et donc tous les humains ou tous ceux qui veulent s'en rapprocher et l'atteindre. Mais plutôt puisque la technologie permet de faire plein de choses quand on la regarde et quand on l'utilise intelligemment et avec un peu d'humanité, mais il y a des nouveaux modèles à inventer. Et en le disant, j'invente rien en fait. Je ne fais que relayer ce que je peux observer par ailleurs. Il y a des maires de villes de taille moyenne qui essayent de faire des choses, parfois un peu tout seuls avec leurs petits bras musclés, mais sur comment connecter des petites villes, comment mutualiser un certain nombre de choses, comment créer de l'attractivité de façon à ce que l'emploi soit pas complètement d'un côté du département et l'autre rien du tout, et ainsi de suite. Et ce type de démarche, en fait, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui est élevé au rang de modèle et donc qui inspire beaucoup de gens et qui soit apte à faire des petits et des déclinaisons. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler.
Mutualiser aussi les maires, parfois, entre chaque... Des toutes petites communes qui ont des maires. Il y a comme ça plein de maires. Ce serait aussi formidable. Vous disiez quelque chose aussi sur les territoires. C'est vrai qu'à Nouc-le-Gendre, on voit les gens, le week-end, partir en masse, les uns derrière les autres, dans leur voiture, consommer énormément d'essence pour partir dans leur petite maison de campagne, parfois à 4 heures de la ville. Donc, c'est vrai qu'il y a une dichotomie, presque. Il y a une espèce de quelque chose d'un peu schizophrène, paradoxal, qui nous amène à réfléchir où est-ce qu'on veut vivre et où est-ce qu'on veut vivre tous les jours de notre tous les jours de l'année. Anouk Lejeune, j'avais une question. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui aux étudiants en architecture ? Vous devez travailler avec des jeunes qui viennent et qui doivent rêver de faire des stages avec vous pour parler biomimétisme, pour parler de cette nouvelle architecture. Qu'est-ce qu'on leur apprend aujourd'hui à ces architectes ? Parce que c'est ça, c'est notre avenir, c'est quand même ces jeunes qui sont étudiants aujourd'hui.
Et bien on continue à leur apprendre le sens du bien public, je pense. et de la cause publique. Je pense qu'on est sans doute parmi les seuls encore à être là-dessus, parce que bon, dans un monde où tout est un peu privatisé, où les intérêts des uns et des autres sont assez forts, finalement, l'architecte, ça reste un des rares qui ait ce sens-là aussi fort. Et ça, c'est vraiment appris à l'école. Enfin, l'école d'architecture, à la fois dans les cours d'urbanisme, mais aussi d'architecture. Finalement, on fait le patrimoine de la ville de demain. On ne fait pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et c'est pour ça aussi qu'on leur apprend à faire des expériences. Si on n'est pas expérimental dans nos métiers, je ne sais pas qui le sera, parce que la ville, elle évolue tout le temps. Depuis le début des temps, elle est en évolution. Et ça fait un peu partie de l'ADN de notre métier, de faire toujours des expériences. Et pour revenir à ce qui a été dit avant, oui, je crois que dans les territoires, il y a un très gros potentiel qu'on a perdu, mais qui permettrait peut-être aux gens d'être plus heureux en consommant moins, en ayant moins de charges pour leur loyer, en travaillant autrement. Maintenant, il y a tous les outils qui permettent ça. On n'est pas obligé de travailler dans son bureau, enfin pas toute la semaine en tout cas. Et il y a des nouvelles formes à inventer. Les élus locaux ont vraiment un rôle à jouer, et la population aussi.
Les élus locaux, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'en termes d'éducation, on est encore un peu loin, Guillaume Loiseau, non ? Vous croyez pas ? Il faut aujourd'hui, en tout cas, il faut un rassemblement et une unité commune. Une idée commune.
Éducation, je sais pas.
Des possibles.
J'aurais du mal à donner un avis là-dessus, en tout cas suffisamment étayé, mais j'ai envie d'y croire en fait, mais oui. Parce que mon fils est à l'école. Mais je crois que les élus locaux, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement, la petite échelle d'un territoire, chacun pour chacun d'entre eux, ce sont les seuls leaders. Et pas que politique, en fait, leader au sens de rassembleur, localement, pour faire de la cohésion dans le village ou dans la petite ville de quelques milliers d'habitants, avoir un peu une vision sur le développement des choses, orienter la ville et finalement le quotidien des habitants pour les 20 prochaines années. Et donc, c'est un sacré job, en fait. Hein. C'est un rôle de chef d'entreprise à grande échelle. Et ce qu'on leur demande, c'est d'être, comme les grands patrons, d'être aussi forts dans la capacité à se projeter sur l'instant présent pour traiter une urgence, des affaires courantes de la ville ou de la population, comme le long terme. Voilà. Et à ce titre-là, bah, peut-être que leur rôle n'est pas suffisamment valorisé à tous les sens du mot valeur.
Voilà. Ouais.
Ou qui ne sont pas suffisamment soutenus.
Pas assez soutenus. Ouais. Voilà, c'était une émission. On a parlé de ville nourricière, on a parlé de biomimétisme, on a parlé d'algues, on a parlé des humains. Merci beaucoup à Anouk Legendre d'avoir bien voulu venir jusqu'à notre micro. Merci aussi à Nicolas Demézières, qui n'est pas là, mais je sais que vous parlez souvent en vos deux noms, parce que vous êtes tous les deux dans ce sujet hautement important, et on l'a compris, économiquement parlant, socialement parlant, philosophiquement parlant. Merci beaucoup à Vianney de faire le trottoir pour nous dans Désir d'architecte. Et Guillaume Loiseau, on se retrouve très vite.
Merci, c'était un plaisir.
Voilà, merci. Puis on va se quitter avec une musique qui en disait long déjà. C'était Daniel Balavoine qui expliquait comment ils arrivaient en ville.
Dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre. On dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors
quand on est